si je vous disais que ce journal qui aurait pu être interdit par ce pays au bord du gouffre pourrait peut-être s'appeler La Cause du Peuple. Comme si je vous disais que le gouvernement intéressé qui s'en prend à ce genre de presse d'opposition pourrait sans doute s'imaginer qu'il n'y a ni cause, ni peuple. Comme si je vous disais que dans le cas bien improbable où l'on interdirait le journal La Cause du Peuple, il faudrait l'acheter et le lire. Comme si je vous disais qu'il faudrait alors en parler à vos amis. Comme si je vous disais que les amis de vos amis peuvent faire des millions d'amis. Comme si je vous disais...
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître ni publicité. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet, présenté par l'association des cinéastes documentaristes ADOC. Je m'appelle Caroline Kim-Morange, j'ai dans le studio aujourd'hui avec moi Colline Beuvelet. Bonjour Colline.
Bonjour.
Et à la technique, Marcia Lacombe. Pour cette émission, nous sommes ravis de recevoir une réalisatrice et un réalisateur, Maëlys Dartigues. Bonjour Maëlys.
Bonjour.
Pour son film Sri Landaise, et Tom Fontenay. Bonjour Tom.
Bonjour.
Pour ton film Mémé Kim. Vous avez tous les deux, chacun dans une forme très personnelle, entrepris une enquête intime qui est devenue un film. Vos deux histoires sont très différentes. Celle de Tom, tu nous emmènes du Vietnam à la France à travers l'histoire coloniale et ses héritages. Et toi, Maëlys, tu traverses les questions de l'adoption, de l'exil, de la double appartenance entre la France et le Sri Lanka. Mais vos deux films se rejoignent dans un même mouvement, celui de personnes qui cherchent à comprendre ce qui leur a été transmis sans mots. Vous interrogez les liens entre histoire intime et histoire collective, entre mémoire familiale et construction de soi. Et vous montrez aussi comment le cinéma documentaire peut devenir un espace de recherche, de réparation et tout simplement d'écoute. Alors, je vais passer la parole à Colline pour présenter Maëlys et son film.
Bonjour Maëlys. Donc, tu es née au Sri Lanka en 1989, puis tu as été adoptée à l'âge de 3 semaines par une famille française. Tu travailles depuis plusieurs années dans la production audiovisuelle avant de te former aux Ateliers de Livaran, puis à la FEMIS. Sri Landaise est ton premier long métrage. C'est un documentaire autobiographique coproduit avec Sister Productions et diffusé sur France 3. Ton travail s'intéresse aux liens qui traversent les frontières culturelles, familiales et identitaires. Tu développes actuellement un nouveau projet documentaire intitulé Sri Lankan Night, autour de danse traditionnelle sri lankaise. C'est ça ?
C'est pas tout à fait autour de danse traditionnelle sri lankaise, c'est un arrière-plan, on va dire.
Ok. Pour ce film pour lequel on t'a invité, le Sri Landaise, tu reviens sur ton histoire d'adoption internationale. Tu entreprends un voyage qui te conduit jusqu'à ta famille biologique. Cette rencontre va bouleverser profondément le récit que tu as construit de toi-même et va faire émerger des questions essentielles. Qu'est-ce qui fonde une identité? Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qui se transmet par le sang, la mémoire, les corps, les langues, même lorsqu'on a été séparé très tôt de ses origines? On va écouter un premier extrait et tu nous raconteras comment est né ton projet. Donc pour mettre dans le contexte de cet extrait, tu arrives au Sri Lanka, tu sembles un peu perdu, tu ne parles pas la langue, tu as juste ton dossier d'adoption. Et là, tu rencontres un policier et d'autres personnes qui décident de t'aider. Et de fil en aiguille, on retrouve pour toi finalement assez rapidement la trace de ta mère biologique. Tu sembles un peu en état de sidération et pas tout à fait prête à cette rencontre.
Nilesha Kumari. Yeah. Name is Nilesha Premet. His father not take this. Bagandika Mila Somati, yes. And 1952, your mother is birth. Is there any angle there? Yes. No. Then your new parents, where?
Sorry?
Your new parents, where? Father and mother, new father and mother.
Yes.
Where is he?
In France.
France,
yes.
Yeah. Your sister? Called me, your sister. Now, he's a Sri Lankan teacher, your sister.
Sri Lankan?
Your sister is Sri Lankan teacher.
Pillar.
Teacher?
Not teacher. Yes, Danti. Name is Danti. I call your sister. Then we can, then we'll come tomorrow morning. Yeah.
Comment tu te sens?
Je viens de me réveiller et puis je suis pas certaine d'avoir tout compris. Il me paraît vachement jeune pour mon oncle. J'ai l'impression que tout le monde tient à ce que je la rencontre.
Tu as encore le choix de dire non?
J'essaye, dans toutes les langues et avec tous les gestes, de faire savoir que je veux juste des informations. Ça a l'air de se goupiller comme ça. Je suis sûre qu'elle est déjà au courant maintenant. Ce matin, je m'attendais pas à ce que des gens la connaissent personnellement.
C'est le risque en cherchant. Parce qu'en cherchant, on risque de trouver.
Donc, pour traduire sommairement en fait, ce qui se passe dans cette scène au début, Maëlys, tu es avec la personne que tu découvres être ton oncle, qui est assez jeune, et qui te pose des questions en lisant ton dossier d'adoption. Et il dit qu'il a contacté ta sœur, Sri Lankaise, et c'est la cadreuse qui s'adresse à toi pour te demander si tu vas bien, parce qu'effectivement, à l'image, tu es un petit peu comme planante, en fait. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'histoire de ce film, comment ça s'est déroulé?
Oui. Déjà, ce film au départ devait être un film, mais qui n'aurait pas dû avoir cette forme. La forme a été déterminée par le fait de rencontrer ma famille biologique et donc de vivre une histoire telle que j'en avais pas anticipé. Je savais que je voulais aller à Sri Lanka pour faire un film sur la rencontre avec cette terre, mais ça n'impliquait pas de chercher ma famille biologique. Donc c'est au cours de ce premier voyage où j'ai souhaité tout de même faire un film sur la rencontre avec ce territoire, la rencontre sensorielle, qu'est survenue la possibilité de chercher ma famille biologique. En fait, je ne pouvais pas aller quelque part sans qu'on me dise « mais qui es-tu ?» J'étais repérée pour à la fois un physique familier, mais en même temps une attitude différente. Et il était impensable pour les gens que je croisais que je puisse être venue dans ce pays, si loin de France, et ne pas chercher ma famille biologique. Et j'ai fini par accepter auprès de policiers qui m'ont fait la proposition de chercher ma famille, qu'on y aille tous ensemble. Et là, le film documentaire que j'imaginais est devenu une sorte de film d'action, ouais, à l'échelle du documentaire. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être accompagnée par une amie et réalisatrice, ou réalisatrice et amie, grâce à laquelle, là où au départ ce film sur la rencontre avec la Terre, nous étions deux personnes à éventuellement le filmer, là j'ai pu investir ma place de personnage, rencontrer ma mère biologique, oublier le film en train de se faire et avoir tout de même la chance qu'elle filme ce qui est devenu des archives personnelles de la rencontre avec ma famille biologique non anticipée.
Et toi, quand tu vivais ces moments-là, tu avais conscience que tu étais en train de faire ces archives ou tu te disais... Est-ce que tu étais un peu dédoublée? Comment ça se passait?
Oui, j'étais un peu dédoublée. C'était très confortable parce que j'avais confiance en cet ami. Et à la fois, j'étais consciente du film en train de se faire, et voire même, ça me protégeait. Parfois, ça me permettait de m'extraire de ce que j'étais en train de vivre et qui était sidérant. Hein. Ouais. C'est-à-dire une rencontre familiale que je n'avais jamais anticipée et puis jamais souhaitée de ma vie auparavant. Donc oui, le film était en train de se faire. Par contre, toutes les questions qu'il allait poser en termes de quelle sera la juste forme pour ce fond, ça c'est des C'était années pas. Après.
Mais donc tu es parti là-bas une première fois avec une idée de film, et suite à ce qui s'est passé lors de ce premier voyage, t'as tout repensé en fait, si je comprends bien.
Au-delà de repenser, on va dire que j'ai pensé. J'ai commencé à penser et ça s'est fait vraiment au long cours parce que il a d'abord fallu encaisser cette histoire émotionnellement, puis réfléchir à comment cette histoire se distingue de celle qui va faire partie du film, celle qui sera partageable. Et ça, ça a déjà pris plusieurs années. Et quand j'ai identifié ce que je souhaitais que ce film raconte, ce film-là, j'ai commencé à le penser vraiment en l'écrivant, en tentant de le rendre partageable une fois que j'ai su ce que je ne voulais pas dire. Et ça m'a permis de réfléchir à quelle était la juste forme pour faire sentir ce récit, même si quelque part ça s'écrivait en même temps que ça se vivait, cette histoire, au fil des tournages, et au fil que ma relation à ma famille biologique évoluait. Donc c'est carrément un autre film que celui que j'étais partie faire. C'est pas tellement une mutation, c'est vraiment autre chose. Ouais.
Oui, parce que pour préciser un petit peu, tu as raconté dans une interview que ton premier désir, c'était de faire presque un film expérimental sur le lien à la Terre, parce que tu avais ressenti un besoin de te connecter en fait à ta Terre d'origine, mais la Terre concrète, quoi, en fait, sensorielle.
Oui.
Donc effectivement, entre partir avec une idée de film expérimental avec une copine et se retrouver à faire un film sur ses origines de famille, familiale.
Oui.
Et un grand écart.
Oui, et puis qui implique de donner à voir tant mon intimité. Ça, c'était pas du tout prévu.
Oui.
Parce que ça a été très émouvant de rencontrer ma mère biologique, mais au-delà de ça, les autres membres de ma famille. Et puis ensuite, ce film, naturellement, quelque part, il m'appelait à filmer notre intimité en train de pouvoir avoir lieu 24 années après notre séparation. Donc ça, c'était... Oui, il a fallu que je me fasse à l'idée.
Oui, bien sûr.
Alors, je vais présenter le film de Tom. Tom, tu as 33 ans. Et après une maîtrise en géographie sociologie, tu me corriges si je dis des bêtises, tu te formes au documentaire de création via le master Images et Société. De quelle université ?
Évry-Paris-Saclay.
D'Évry-Paris-Saclay. Tu commences ta carrière dans le cinéma comme cadreur. Tu interviens ensuite dans des ateliers de réalisation documentaire à La Serma, dans le 19e arrondissement de Paris. Et tu continues à te former à la technique de l'image et en écriture au Centre européen de la formation à la production de films. Mémé Kim est sorti en 2025 et c'est ton premier film. Le second, Corps secret, sort en ce moment. Et il a été présenté à Cannes dans la programmation de l'ACID. Et il commence à tourner un petit peu dans des festivals. Mais pour en revenir à Mémé Kim, il s'agit d'une quête. Tu pars à la recherche du secret, rangé quelque part dans l'esprit de ta grand-mère, qui est donc Mémé Kim, qui est née au Vietnam et qui a aujourd'hui, enfin au moment du film, 95 ans. Du secret de... Donc le secret, c'est le secret un petit peu de son arrivée en France. Et elle refuse de te parler. Le film est donc une tentative de révéler ce passé malgré le silence. Alors, même s'il s'appelle Mémé Kim, il parle de Mémé Kim, il commence par donner la parole, enfin, pas parler de ta mère. Donc, on va écouter un extrait de ce moment-là, et ensuite, on en parle.
Elle est belle, maman.
Bah ouais, elle est belle. Bonne soeur. Elle est belle, maman.
Ça,
et
je sais
c'est
pas.
Fou comme elle arrivait à donner en fait énormément de bonheur et de joie autour d'elle alors qu'elle était quand même assez triste, quoi.
En fait, je sais pas, mais moi, cette tristesse-là, tu vois, quand elle est partie... Enfin, je me suis toujours questionné aussi, tu vois, d'où ça venait, cette tristesse. Tu comprends ou pas ce que je veux dire?
Ouais. En fait, elle venait pas de toi.
Mais moi, c'est dur aussi, tu vois ce que je veux dire?
Ah bah, bien sûr que c'est dur, parce que tu m'apportes quand même.
Je l'apporte, et des fois, j'ai l'impression que maman, tu vois, je veux dire, j'ai l'impression que c'est... Je sais même pas si elle... Je sais pas d'où ça vient, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, je pense que c'est des deuils. C'est une accumulation de deuils. Et à commencer par ce mémé. Et qu'elle a transmis, parce que cette tristesse que maman, elle a, Françoise, elle l'a, Jean, il l'a.
Ben oui, je sais.
Ils l'ont tous.
Mais c'est pour ça que c'est... Je sais pas, c'est silencieux aussi. Cette tristesse, elle est silencieuse un peu.
Mais elle est latente.
Elle est latente, on la sent, mais
elle est toujours là.
On peut pas
là.
Mettre de mots dessus. Et moi, c'est, En fait, si j'avais eu l'opportunité de pouvoir discuter de ça avec maman, je pense que ça m'aurait fait du bien.
C'est comme s'il y avait un truc inachevé. C'est un peu métaphysique.
Donc, ça m'amène à une première question. Est-ce que finalement, ton envie de film est née de cette tristesse que tu évoques au début de ce film ?
Oui, bien sûr. Je pense que depuis très jeune, en fait, j'ai l'impression de porter une certaine lourdeur en moi, une certaine douleur. Et je me suis toujours questionné d'où ça pouvait venir. Après, forcément, on émet des hypothèses, on ne peut jamais vraiment être sûr à 100%. Et c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère il y a 12 ans, je me suis questionné en fait sur d'où elle venait, parce que je sais que voilà, ma mère est eurasienne, on va dire, parce que ma grand-mère est vietnamienne. Et en même temps, moi j'avais 21 ans et c'est une histoire qu'on n'avait jamais abordée. Et en quelque sorte, il était trop tard pour l'aborder avec ma mère parce qu'elle n'était plus là. Et c'est quelque chose qui je sentais que ça pesait en fait dans ma famille. C'est quelque chose dont on parlait jamais, et j'ai ressenti ce besoin d'essayer d'aller creuser en tout cas cette histoire, et ça partait de là, ça partait en fait d'un sentiment très viscéral et qui m'appartenait à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai cette discussion avec ma sœur, et ce qu'elle dit finalement, c'est que tout le monde la porte dans la famille. Et pourtant, on la nomme jamais. Et on va dire que mon geste dans ce film, c'est d'essayer de la nommer et d'essayer de la comprendre.
Mmh. La tristesse que tu retrouves chez ta grand-mère, en tout cas, bon, on n'en voit pas énormément, mais effectivement, on voit ce moment où elle te ferme la porte.
Oui, très clairement. Bah, déjà, à la base, un peu comme toi, Maïlis, en fait, le film, dans cette finalité, n'était pas du tout le film que j'avais imaginé initialement. Initialement, j'avais vraiment envie de confronter cette histoire à ma grand-mère et d'aller chez elle, de passer du temps chez elle et d'essayer d'en faire sortir quelque chose, même si pour moi, c'était très... je ne pouvais pas l'anticiper. C'est-à-dire que je ne pouvais pas comprendre... ce que j'allais découvrir et ce que j'allais ressentir. Et c'est ça qui est dur, d'ailleurs, dans ce genre de film. Je pense que toi, Mélis, j'ai ressenti ça aussi quand j'ai regardé ton film. Et en fait, la porte était littéralement fermée. C'est-à-dire que ma grand-mère vivait avec mon oncle et mon oncle a toujours empêché et a toujours dit que ma grand-mère ne voulait pas. Et effectivement, jusqu'au jour où j'insistais et que je voulais que ça soit vraiment ma grand-mère qui me le dise... Et en fait, j'ai eu ma grand-mère au téléphone et elle m'a dit « Je suis désolé, Tom, tu ne viendras pas chez nous. » Et en fait, sur le moment, j'ai cru que... Enfin, clairement, je ne voulais plus faire ce film parce que c'était trop dur. Enfin, vraiment, c'était très, très dur parce que c'était concret, quoi. Qu'on me disait « Non, tu n'accéderas pas à nous, à notre histoire, à notre intime. » Et de fil en aiguille, il s'avère qu'on avait déjà débloqué quelques financements avec mon producteur sur le film. Et on s'est demandé comment continuer ce projet. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire quand même. Et qu'au lieu de raconter ma propre histoire, j'allais la raconter, mais via le témoignage de d'autres personnes. Donc c'est un peu mon histoire par substitution, quoi. Et finalement... En fait, plus je pense à cette démarche, plus je me dis que ça a du sens, au final. Parce que, en parlant avec d'autres personnes de ma génération qui n'ont pas forcément accès à leur histoire, on parle souvent d'autofiction un petit peu. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes se créer notre propre histoire à travers, justement, à travers les témoignages, à travers les podcasts, à travers les lectures. Et c'est comme ça qu'en fait, on commence à construire notre histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, dans mon film. Et d'ailleurs, c'est souvent le retour que j'ai. C'est une des premières questions qu'on me pose, c'est mais est-ce que, justement, ta grand-mère a vraiment vécu ce que les autres ont vécu? Et ma réponse, c'est qu'en réalité, je sais pas, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de m'imaginer, elle, ce qu'elle aurait pu vivre là-bas et dans quel état d'esprit aussi elle aurait pu être. Et c'est ça qui m'a fait du bien, je crois.
Et cette scène, du coup, tu dis, le refus, elle te l'a fait initialement par téléphone.
Initialement, oui.
Et là, dans le film, tu mets en scène, donc elle est dans un EHPAD, hein, si je comprends bien. Elle est dans un EHPAD et tu, en fait, t'as décidé de mettre en scène ce refus pour lui donner, pour commencer à explorer d'autres voies.
Mais alors...
Ou tu croyais encore que c'était possible?
Je croyais encore que c'était possible, mais parce qu'en fait, après cet épisode-là, parce que là, ma grand-mère vivait encore avec mon oncle, et elle est allée à l'EHPAD, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, parce que, en fait, je peux aller directement tout seul à l'EHPAD, accompagné de ma caméra, et je vais commencer par juste lui montrer des photos du Vietnam, et on va commencer à discuter comme ça. Et ce que j'ai fait... Mais finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais souhaité. Et c'est là, effectivement, c'est cette séquence dans le film où on la voit qui vient me fermer la porte. Et en fait, cette symbolique est intéressante parce que... Enfin, en tout cas, ce parallèle entre le fait qu'elle me ferme littéralement la porte au nez et le fait que, en fait, elle me ferme la porte à mon histoire. Mmh. En fait, pour moi, c'est le point de départ, en tout cas... du nouveau mouvement du film qui est d'aller chercher mon histoire ailleurs. Ouais. Après, dans la réalité du tournage, c'est quelque chose que j'ai fait très tardivement et que j'imaginais quand même, on va dire. Et je ne l'ai pas fait au début du processus.
Tu as fait très tardivement quoi? Le fait de...
La mise en scène de la fermeture de ma grand-mère. Ouais.
Okay.
C'est un peu la triche du montage.
Ça marche très bien.
Et ben oui, vos films cherchent donc tous les deux à rendre compte d'un état émotionnel, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à des sensations. Et comme vous êtes face à des silences, ben on a commencé à en parler, vous avez choisi de trouver des formes narratives pour raconter, pour vous reconnecter et pour compléter les récits que vous n'avez pas eus. Et on voulait vous demander un peu comment est né, enfin comment vous avez pensé à ces dispositifs, l'un et l'autre? Toi, Maëlys, plus en filmant la nature, en filmant les sensations, le toucher, la musique aussi est assez sensorielle. Et toi, Tom, en fait, tu as inventé un danseur aussi, un personnage de danseur, qui raconte aussi cette sensualité. Comment vous avez... Tu peux commencer, oui, Maëlys, et puis après, Tom complétera.
Mais en tout cas, une chose que j'aurais envie de dire sur ton film, Tom, c'est cette exploration que tu mènes à travers des saveurs, la diaspora. J'ai la sensation que c'est une part d'une exploration que j'ai été amenée à vivre aussi. J'ai pas retenu cette partie du spectre, mais quelque part, elle fait partie de mon bagage de personnes un peu... perdu entre les mondes. Je ne sais pas si c'est... même si je crois moi-même à ce terme, mais ce qui s'est agi de faire en faisant le film, c'était quand même de... Au-delà de mettre en scène la quête des origines, parce que ça implique qu'il y ait un but, c'est déjà être quelque part, c'est témoigner d'une route qui est vertigineuse, que j'ai rarement été capable de nommer telle que je fais une route de personne française, une route de personne sri-lankaise. Vraiment, j'ai vécu avec la sensation d'être partout, chez moi partout et chez moi nulle part. Mmh. Et quelque part, donc le film était un outil pour faire sentir cette solitude, cette errance, et en même temps faire exister un pays symbolique qui serait composé des deux mondes. Deux mondes donc qui seraient la France et Sri Lanka, et entre lesquels je circulerais, comme une cosmogonie qui arriverait avec le film et qui embarquerait et ma famille biologique, et ma famille adoptive, et mon réel français, et celui sri-lankais rencontré sur le tard... le film était un outil pour figurer une réunion.
Ouais. Et dans les deux cas, vous utilisez la confusion des fois des paysages ou des mouvements de feuilles ou du vent pour passer d'un pays à l'autre.
Oui, effectivement. Bah, déjà, pour répondre à ce que disait Maëlys et pour rebondir, c'est vrai que cette question de ne pas savoir où on est, elle est quand même primordiale, en tout cas dans le... dans le point de départ, je dirais, du film, et quand je parlais aussi de douleur et de tristesse, c'est vraiment de cet ordre-là, c'est que à un moment donné, on ne sait pas trop où on se situe. Et justement, parce que moi, je vais vraiment parler de registres, parce que c'est vraiment deux registres très différents. Effectivement, on mobilise un danseur, mais qui est en fait mon personnage à moi. C'est-à-dire qu'une personne qui voit le film pense que c'est mon corps. Donc ce registre-là, justement, qui fait un peu état de mon évolution à moi, aussi de à quel point je me rapproche un peu de mon histoire, et à quel point ça vient un peu réparer quelque chose, quelque part, dans mon corps. Et justement, cette séquence d'ouverture qui est... on ne voit pas trop, il y a des mouvements musculaires et de tension qui sont forts. On est dans le noir, il y a du vent, il y a de la brume. C'est vraiment... L'idée, c'est de représenter justement ce point de départ d'être perdu. Moi, je parlais souvent de brouillard. C'est-à-dire que j'étais perdu dans mon brouillard et que l'idée du film, c'était un peu d'essayer de dissiper et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce brouillard. Et en parallèle, j'ai aussi fait la rencontre, parce que pour me relancer un peu dans ce nouveau mouvement du film, j'ai rencontré une très bonne amie maintenant qui s'appelle Vanessa et qui travaillait, elle, plutôt en philosophie et qui avait fait un mémoire sur Frantz Fanon, et justement qui étudiait les corps et qui utilisait justement les corps décolonisés et qu'est-ce que ça, enfin, quel impact ça avait en fait sur le corps. Et on est parti de ça en fait pour imaginer justement des séquences un peu de danse qui partaient en fait des tensions musculaires et qui ensuite il y avait une progression comme ça dans le film. Et en parallèle, c'était très important aussi pour moi d'avoir justement ces paysages et ces mouvements dans le paysage parce que pour moi c'était aussi l'endroit de l'entre-deux, c'est-à-dire que entre le Vietnam et la France, pour moi, c'est, en fait, ce registre, il est vraiment à cet endroit-là. C'est comme si qu'il était ni ici, ni là-bas, mais que c'était un peu un espèce de flou entre les deux. Et au-delà de ça, personne vraiment le sait, mais tous ces tournages ont eu lieu, en tout cas, sur la rivière ou à proximité de la rivière qui traverse, en gros, le village où est arrivée ma grand-mère en D'accord. France.
Oui, donc symboliquement...
À Mêlée, et du coup, symboliquement, ça avait du sens pour moi de faire... tout ça à ce moment-là.
Et par rapport à ce flou dont vous parlez tous les deux, par rapport à cette sensation d'être perdu, on a vraiment le sentiment dans vos deux films que vous jouez pour vous raccrocher un petit peu, c'est moi qui dis ça, mais vous jouez beaucoup sur les sensations, sur les caresses, la nourriture, des sensations physiques assez concrètes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez... est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un peu travaillé justement ces sensations?
Non, dans mon cas, tu te trompes pas. Simplement, j'ai pas eu le génie pour trouver cette grammaire. C'est en regardant les images qui avaient été filmées par mon ami, justement, que j'ai constaté que c'était ça qui était signifiant. C'est en lisant ces images et en les confrontant à des regards de personnes qui n'avaient pas vécu ce voyage que je me suis aperçue que on comprenait. Il y avait un langage corporel qui permettait de comprendre que c'était ma mère qui me touchait comme ça, que c'était des femmes de ma famille, ou en tout cas des femmes qui éprouvaient un grand sentiment de familiarité vis-à-vis de moi. Et donc j'ai souhaité poursuivre le recours à cette grammaire-là, mais j'ai rien inventé.
Et en plus, ce qui est assez beau, enfin, dans ton cas, parce que moi, on l'a ressenti peut-être moins avec Tom, puisque Tom, on cherche l'histoire, mais toi, on sent, en fait, avec ces mouvements-là, on sent qu'il y a eu un manque, en fait. Et ça aurait presque été difficile de raconter qu'il y avait un manque, que tu ne connaissais pas ou dont tu n'avais peut-être pas conscience. Mais ces séquences-là, en les voyant, on se dit, ah bah oui, mais en fait, c'est ça qui lui manquait, ou c'est ça qui manquait à ta mère, c'est le toucher, quoi. En fait. Et c'est assez beau.
Mais je l'avais écrit dans des dossiers artistiques. Quand j'ai rencontré ma mère biologique, j'ai compris que j'étais née physiquement. C'est une sensation que j'avais jamais eue. Comme si, ça peut sembler étrange, mais comme si j'étais arrivée par avion et que j'étais pas née à la chair. Or, ce moment où elle me touche, qui est dans le film, c'est vraiment un moment où je me suis incarnée, où j'ai compris que j'étais sortie d'un ventre, le sien, et que, et, que quelque part, oui, j'appartenais à la matière. Donc, je ne voulais pas que ce soit dit avec des mots dans le film, mais néanmoins, le faire sentir était fondamental, parce que c'était quelque part ça, par effet de contraste, la force du déracinement. C'est de perdre de vue qu'il y a cette origine-là.
Et Tom, toi aussi, il y a du très physique, notamment la dernière scène où tu prépares un repas. Enfin, on voit pas la préparation, mais on voit le repas qui apparaît, enfin qui disparaît. Et donc, il y a ce côté, l'aliment, en fait, il y a aussi une chanson, il y a des choses très aussi concrètes qui te lient, en fait, à cette histoire. Ou qui pourrait te lier, en tout cas les aliments plus, la chanson tu la découvres, mais c'est intéressant, enfin, c'est une manière aussi peut-être de rencontrer cette personne qui refuse de s'ouvrir.
Oui, en quelque sorte, parce que ce film il parle en même temps de non-transmission, mais aussi de transmission, parce que c'est vrai qu'au moment où j'étais perdu, j'avais l'impression qu'on m'avait rien transmis, mais c'est faux. En fait, on m'a transmis beaucoup de choses. C'est juste que c'est de la transmission qui n'est pas nommée ou qui n'est pas vraiment élaborée. On a du mal à... Et c'est pour ça qu'on est perdu. C'est qu'on sait qu'on nous transmet quelque chose, mais on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas comment et on n'en parle jamais. Et c'est ça qui est compliqué. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu représenter. Mais après, un peu comme toi, Maëlys, c'est aussi des choses qui se font... au fur et à mesure, elles sont pas forcément toutes pensées comme ça initialement, mais c'est que en même temps que je retrouve et que je reconnecte aussi avec un peu toutes ces petites choses, c'est je me rends compte qu'en fait c'est des choses qu'on m'a transmises, c'est-à-dire que l'aspect culinaire, l'aspect corporel, en fait ça c'est des choses qui faisaient déjà partie de moi. Sauf que c'est des choses qui ont toujours été là sans jamais sans jamais que ça soit expliqué, on va dire. Et c'est ce phénomène justement qui presque dissociatif qui est perturbant au début. Et du coup, tout ce chemin dans le film de retrouver un peu ces petites choses et de retrouver justement soit ce corps qui se détend ou soit de retrouver ces petites choses culinaires, c'est aussi pour montrer justement ce chemin de réappropriation. Et d'ailleurs, à la fin, ce dîner où ma grand-mère n'est pas là, c'est en fait le fait de lui transmettre aussi ces aliments que moi j'amène et que moi je confectionne, on va dire, c'est aussi une façon d'accepter et de renouer quelque part. Et c'est très juste ce que tu disais, Maëlys. Ce que je trouve beau dans ton film, c'est que, enfin, c'est marrant, en voyant ton film, je me dis que c'est presque le film que j'aurais voulu faire initialement, c'est-à-dire que un peu retrouver justement ce lien et ce contact, on va dire, avec de là d'où on vient. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend justement quelque chose de l'ordre de l'ancrage, en tout cas par rapport à moi. Et dans mon cas, c'est vrai que j'ai toujours ressenti que j'avais un héritage, que mon héritage, il venait du colonialisme et que c'était perturbant, parce que voilà, j'ai aussi un grand-père français, une grand-mère vietnamienne, et qu'il a été difficile pour moi de se situer dans toute cette histoire. Et c'est pour ça que de base, et quand je rêvais mon film au tout début, et ben en fait, je rêvais presque retrouver le contact avec ma grand-mère, enfin, vraiment le contact précieux des mains, du toucher. Et c'est marrant, parce que quand je voyais ton film, Maëlys, j'avais l'impression de vraiment ressentir ce que tu ressentais tout le long. Et d'ailleurs, j'étais... je trouve ça très beau, justement, cette évolution aussi de toi, de ton visage, de ton sourire. Et justement, quand tu disais qu'elle plane au début, que tu planes, on le ressent vraiment très fort. Et on sent que c'est dur pour toi aussi de se confronter. Et d'ailleurs, tu dis à un moment que t'as presque pas envie d'y aller. Et quand on regarde la séquence à la fin, où je sais plus, vous faites une visio avec ton père, du coup... non biologique, et ben c'est très beau, enfin je trouve ça très beau. Et en fait ce que tu ressens là, et ben c'est presque moi ce que je ressens aussi quand j'ai accès à l'autre grand-mère dans mon film. Et on va dire que c'est plus abstrait pour moi, parce que du coup j'ai jamais ce contact très concret avec ma grand-mère, mais finalement c'est comme si que je l'avais imaginé et que je me l'étais créé aussi quelque part, justement via d'autres femmes, une autre grand-mère. Et avec cette histoire de substitution, et c'est ça le chemin. Et j'ai, voilà, à la fin de ce film, je me suis senti beaucoup plus apaisé, en tout cas, qu'au début, grâce à ça.
Je peux te demander quand est-ce que tu l'as commencé ?
Le film ?
Oui.
C'était en sortant de mes études, je crois, en 2019, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Ouais, ça a duré 6 ans, du coup.
Et toi,
8 ans. Mais je crois qu'on est sur des temporalités qui sont... Voilà, pour affronter ces choses-là, pouvoir en faire récit,
complètement.
C'est les durées qui sont justes.
Complètement.
On fait une petite pause musicale, et puis on vous retrouve après Bernard Lavilliers et Césaria Évora.
Elles sont un peu voilées, souples comme le vent. C'est une mélodie sans parole, hors du temps. Elles chantent les yeux fermés, en fléchissant le cou, plongées dans un pays très éloigné de vous.
T'as canté. Ta pensa na minha terra, sum ta fcha oi, e panula, es distância. Na voz minha saudade, um ta leva nos humanidade. Pa tu povo sofredor, pa tu gente que crê amor.
Mais d'où lui vient cette infinie douceur, cette sensualité mélangée de pudeur, ces belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie la mort, on s'en va. Chante la terre rouge, la sèche, la stérile. Elle chante les hommes proscrits, les centaines dans les villes, les jeunes filles en noir et tous les enfants dans les rues. Les longues années sans pluie et ceux qu'on n'a jamais revus.
Et ce sera forma de lutar contra a dureza de uma vida magoada. Tristeza da pra festa, não tá lembrar pra limpar nos dor, nos alma e coração, pra afugentar toda maldição.
Mas d'où lui vient cette infinie douceur, cette sensualité mélangée de pudeur, ces belles mains quand elles se posent sur une épaule ou sur mon bras, tout se métamorphose, on oublie la mort, on s'en va.
T'as canté, t'as pensé na minha terra, sum t'as fait oi. É pra anular essa distância.
Sa voix qui était fluide d'abord se brise et se renforce. Elle est la vie, la mort, la fragilité et la force. Elle est la vie, la mort, la fragilité et la force.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, la voix de la Fédération anarchiste. On vient d'écouter Bernard Lavilliers et Césaria Évora, elle chante. Nous sommes toujours dans l'émission d'ADOC, l'association des cinéastes documentaristes. On a déjà traité le sujet, c'est le nom de notre émission, et nous sommes avec Tom Fontenille et Maëlys d'Artigues. Donc on voulait aussi parler d'un autre point commun entre vos films, qui est que vous êtes au cœur du film. Vous êtes un personnage central, protagoniste, qui initie la quête tout en... en tout cas la narration. Donc Tom, tu as décidé de te mettre vraiment en scène, et on voulait savoir pourquoi. Voilà, pourquoi tu avais choisi d'apparaître de manière aussi... voilà, c'est toi qui mène, c'est toi qui vas rencontrer les différentes grand-mères, et on te voit à l'image. Ça aurait pu être par exemple une voix off ou autre. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être aussi présent ?
De base, c'est quelque chose qui se fait aussi très naturellement. C'est-à-dire que en fait, c'est moi qui est à l'initiative de cette quête, à l'aide de ma caméra. Comme tu disais, toi, Maëlys, tout à l'heure, cette caméra qui protège, moi, j'aime bien dire que la caméra, elle me contraint et elle m'oblige justement à continuer cette quête. Et en fait, je deviens un espèce de personnage filmeur, et cette caméra, c'est moi, c'est mon regard, c'est mon histoire. Et à un moment, voilà, ça devient évident que déjà, ça se raconte à la première personne. Ça devient évident que je fais partie du film et que je suis un personnage. Après, le fait d'apparaître devant, ce qui est assez marrant, c'est que dans un premier temps, c'était pas forcément quelque chose d'écrit. C'est pas quelque chose que j'avais calculé, on va dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que... Parce qu'en fait, ça s'est fait en plusieurs temps, le tournage du film. Il y a eu un premier temps où c'était... Moi et deux amis, on allait filmer justement les entretiens des grands-mères. Donc c'est les premiers tournages au final. Et ensuite, il y a eu le tournage des tatas et ensuite le tournage justement avec le danseur.
C'est quoi le tournage des tatas ?
Les tatas, c'est Edith et Janie, les deux premières personnes. Et en fait, je me suis rendu compte avec les grands-mères qu'en fait, il y avait un lien en fait, qui se crée aussi au cours de l'entretien avec elle. Et justement, ça revient aussi à ce toucher dont on parlait tout à l'heure. Et à un moment donné, en fait, c'est devenu vraiment plus fort que moi qu'il fallait aussi que je rejoigne la personne, qu'on se touche. D'ailleurs, elle me fait un bisou aussi, cette grand-mère. Et de fait, quand je passe comme ça devant la caméra, bah, je suis filmé. Et on s'est rendu compte que c'était important pour le film, pour le spectateur, la spectatrice aussi. Et ensuite, du coup, on a imaginé les autres entretiens de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'ensuite, par exemple, avec Edith, je ne suis pas forcément à l'image, mais c'est pour ça que, voilà, entre les entretiens, en tout cas, je suis souvent à l'image, et c'est moi qu'on suit, et on marche presque avec moi. Et ça, c'était quelque chose, du coup, dans un second temps, qui était très écrit. Et d'ailleurs, on était en petite équipe à ce moment-là, avec un chef opérateur, Benoît Pain. Et voilà.
Donc, tu as toujours été accompagné par quelqu'un qui est filmé ?
Dans un deuxième temps. Justement, dans ce premier temps, juste pendant l'entretien avec la grand-mère, non.
D'accord, donc si tu poses la caméra...
Je pose la caméra sur le trépied.
Et voilà, tu passes devant la caméra, tu as eu cette envie, en fait, de t'approcher d'elle.
C'est ça, c'est ça. D'accord. Et parce qu'elle voulait aussi être dans le partage. C'est-à-dire que ces entretiens-là, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a imaginés... Enfin, en fait, naturellement, je les ai imaginés comme ça, parce que j'aime pas trop ce truc de l'ascendance, en tout cas dans l'entretien. Donc on était vraiment au même niveau, c'est-à-dire que autant que je m'intéressais à elle, elle s'intéressait aussi à moi. Et en fait, elle voulait aussi, du coup, que je leur montre des photos ou alors regarder leurs photos. Enfin, en fait, il y a des moments filmés qui sont très beaux avec une autre grand-mère d'ailleurs qui est pas dans le film, où on est côte à côte dans le canapé, on regarde toutes ces photos, tout l'historique. Et ça, c'est des choses qui me semblaient en fait évidentes, parce que elle faisait partie du présent du tournage, du présent de ma démarche, et c'est quelque chose qu'il fallait aussi capter et avoir à l'image. En tout cas. Mm-hmm.
Et comment justement tu as décidé toutes ces grand-mères que tu as été rencontrées, comment ça s'est passé un peu ? Est-ce que tu as fait un casting de grand-mères ? Déjà, on n'a pas encore précisé, en fait, on a dit que ta grand-mère venait du Vietnam, mais est-ce que tu peux raconter un petit peu, c'était assez précis quand même, les grand-mères que tu cherchais, j'imagine ?
Oui, c'est très précis, et d'ailleurs c'est assez peu connu. C'est après l'indépendance du Vietnam, en fait, justement, les grands-mères vietnamiennes qui avaient soit qui étaient mariées ou soit qui avaient eu des enfants, justement, avec des militaires français, sont devenues, en fait, des rapatriés d'Indochine. Et du coup, c'était sous De Gaulle. Ces familles-là ont été ramenées ensuite en France. Et elles avaient un peu deux options. Soit elles allaient dans des camps qui étaient destinés à elles. Et il y en a eu deux très connus qui sont justement Noyant d'Allier, là où le film, la majorité du film se passe, et aussi au Cafi dans le Lot-et-Garonne, à Sainte-Livrade. Et sinon, comme ma grand-mère, et ça, c'est des cas du coup plus isolés, qui allaient dans leur belle famille. Et c'est ce qui s'est passé pour ma grand-mère. Et du coup, quand j'ai cherché d'autres grand-mères, je me suis dit qu'il fallait que je m'approche justement de ces camps, qui ne sont plus des camps aujourd'hui, mais qui l'étaient. Et en fait, il en existe plus tant que ça, parce que c'est des grand-mères qui ont 95, ma grand-mère a 96 aujourd'hui, et ça va très vite. C'est-à-dire qu'on va dans le village et on demande quelles sont les grand-mères encore vivantes. Et en fait, il en reste deux ou trois, et du coup, c'est comme ça qu'on est allé à leur rencontre. Et j'y allais avec beaucoup d'appréhension, et au final, c'est presque ces grand-mères-là qui m'ont le plus ouvert les portes. Et d'ailleurs, c'est très beau, parce que dans cet entretien, c'est la fille de cette grand-mère qui m'a emmené à elle, en tout cas, découvre aussi sa propre histoire en même temps, et ça, c'est assez fort.
Mm-hmm. Ouais, un entretien qu'on peut l'écouter maintenant ou plus tard.
Oui.
Allons-y, on va partir sur l'extrait justement où on entend la grand-mère. Donc, oui. Il parle avec sa fille. Tu l'interroges la grand-mère, elle te répond en vietnamien, et sa fille qui sert d'interprète, en fait.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Donc, on y va.
Ouais. Ah, elle dit que mon père était très dur.
Très dur.
Très dur. Mais pas avec elle.
Avec les autres, mais pas avec elle.
Parce qu'elle, elle avait une belle vie. Du fait qu'il était gradé et tout, elle
c'est
avait
ça,
une...
C'est ça que je me disais.
Elle
du
avait
coup,
une
elle
maison,
avait...
chaque enfant avait sa
nounou. Mais est-ce qu'elle était, elle était vraiment
non,
amoureuse
mais,
de
ouais,
lui
papa, mon cotron, à moi. Mon cotron, papa, à moi. Ou la mon cotron, t'as eu un bac bourg, moi. Ah, après, elle s'est pris d'affection pour lui.
Elle s'est pris d'affection pour lui après.
Oui. Ah, mon cotron, là. Tum. Oui. Donc, tu manques bon de con.
Bon de. Ben.
Oui, elle a dit que si l'affection est venue après.
Après,
elle a dit que c'est ça qu'elle a eu quatre enfants.
Après, genre.
Elle a fini par en fait être amoureuse de ton père,
voilà.
C'est ça.
Oui.
Et est-ce qu'elle peut raconter un peu le jour de son mariage? Elle s'en souvient?
Oh, mon don couille, mon don couille, ça. Don couille, ça. À l'église. Elle était triste le jour de son mariage. Parce que pour elle, c'est une obligation.
Elle était triste parce que...
Elle pensait à son père.
Elle pensait à son père et sa famille.
Oui,
aussi.
Voilà.
Donc, ce qui est intéressant... Alors, il y a plein de choses intéressantes dans cet extrait. Mais notamment, en fait, dans cette discussion que tu as avec cette grand-mère, ce qu'elle te raconte ne correspond pas vraiment à ce que traduit sa fille. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? J'ai la traduction, la réelle, mais toi, tu dois avoir gardé en mémoire, j'imagine, et je compléterai s'il y a des choses... Mais globalement, ça a dû être une surprise quand même quand tu as découvert la réalité.
Ouais, ouais, complètement. Ça a été une grande surprise. Bah, c'était quand on dérochait... J'ai une amie qui parle vietnamien qui a fait justement la traduction de tous les rushs. Et je me souviens que c'était un moment... hyper fort pour nous, parce que en fait c'est marrant, mais vu que je parle pas vietnamien, je redécouvrais vraiment les rushs et les dialogues, puisque moi j'avais que les dialogues de la fille, mais pas du tout ceux de Madame Muller. Et en fait, ça a été vraiment bouleversant. Et je me souviens qu'on a, on avait fondu en larmes justement avec mon amie vietnamienne, parce que en fait, c'est a posteriori que je me suis rendu compte que j'étais allé, comment dire, que j'avais touché du doigt, en tout cas, ce que je voulais toucher. Et que sur le moment, je m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est vrai que j'étais sorti de l'entretien et je m'étais dit oui, bon, c'était bien, enfin, forcément, c'était chouette et j'ai eu plein de choses intéressantes, mais j'avais pas conscience que j'étais allé justement jusqu'au bout, qui est que enfin, en fait, c'est marrant, mais ça raconte beaucoup aussi cette mauvaise traduction de sa fille. Mais en fait, je me demande même à quel point sa fille a conscience de ça, parce que je pense que quand on est, et c'est le cas souvent des secondes générations, c'est-à-dire des secondes générations, on est encore très proche, on va dire, de l'exil et du déracinement. Et je pense qu'il y a un endroit aussi où on cultive un peu le déni qui nous a été transmis par nos parents. Et je pense que justement, là où moi je suis justement à la troisième génération, c'est moi je suis capable d'écouter ces choses-là. Mais sa fille n'est pas vraiment capable de les écouter. Et justement, elle les traduit autrement, quoi. Mmh. C'est-à-dire que... Elle n'ose pas le dire avec les mots, c'est ça qui est fou.
Peut-être notamment parce que c'est son père, en fait. Toi, c'est ton grand-père, c'est déjà un petit peu plus loin. Est-ce Exactement. Que tu peux nous dire, justement, quelle était la violence de ce que tu as appris, en fait, quand tu as eu la vraie traduction ?
Bah, quand j'ai eu la vraie traduction, en fait, ce que je comprends, c'est que clairement, sa mère, elle n'a pas eu le choix de se marier, justement, avec son mari, qui était militaire français. Et que sa fille, justement, elle traduit ça comme quelque chose de l'ordre de, enfin, je sais plus exactement, mais par exemple de l'ordre du mariage, où je demande, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'elle ressentait à ce moment-là, enfin, tu vois, sa fille a dit elle était triste parce que sa famille était pas là. Et en fait, quand on traduit vraiment, on comprend que en fait c'est pas juste de la tristesse, c'est vraiment une obligation de se marier, et que elle voit justement l'amour comme une sorte d'obligation. Et ça, j'ai trouvé cette phrase hyper forte et hyper justement significative, en tout cas, de ce que ma grand-mère a pu vivre. Et c'est ça qui est fort. Et je pense que sa fille n'a pas pu, presque pas pu l'entendre, quoi, entre guillemets. Comme mes oncles et tantes, moi, ont du mal à... J'en ai déjà parlé avec une tante, et elle a du mal, elle ne veut pas croire que ce n'était pas une vraie histoire d'amour, par exemple, mes grands-parents. Pour eux, c'est forcément une vraie histoire d'amour. Mmh. Et du coup, je trouve que là, on est pile justement à cet endroit où ça questionne de qu'est-ce que c'est l'amour aussi, en fonction de nos époques. Je pense qu'en fait, on n'a pas la même vision. Je pense que l'amour romantique d'aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'à cette époque-là, quand elle dit que justement, que... l'obligation, c'est une sorte d'amour.
Elle dit quand même, on s'est mariés à l'église, j'étais triste, si je ne l'épousais pas, il me fusillait.
Ouais.
Voilà, quand même pas rien. Elle dit aussi, c'est une autre forme d'amour. Ensuite, il y a une autre femme, et alors il est devenu très méchant. Donc il y a quand même une violence derrière, qui est effectivement assez édulcorée.
Complètement.
Quand la fille traduit.
Qui n'est pas du tout traduit de cette manière. Mais ça montre la violence coloniale aussi, en fait.
C'est ça, exactement. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. En dehors du grand-père, c'est effectivement la violence coloniale qu'on ressent, parce que elle-même, je sais pas si c'est elle ou si c'est une autre qui dit qu'elle pouvait pas rester, en fait, parce que les autres la voyaient, la considéraient pas non plus. Donc cette violence d'être colonisé,
de pas pouvoir rester non plus,
de pas pouvoir rester, etc.
En fait, à quel point t'as le choix, en fait. Enfin, voilà, la supposition, c'est qu'elles n'ont pas vraiment le choix de venir en France.
Et puis une fois...
Alors qu'elles n'en ont pas vraiment envie non plus. Ouais. Et ça, voilà, ça crée des... On va dire des traumas.
Maëlys, de ton côté, toi aussi, tu te crées un personnage pour apparaître dans le film et pour nous aider, en fait, à comprendre ta quête. On va écouter un extrait où tu parles avec ta sœur, et c'est un moment, en fait, un peu charnière dans le film, parce qu'on apprend beaucoup de choses, là aussi, sur les récits qu'on se fait, notamment d'adoption et la réalité de ce que peut être l'adoption. Et aussi parce que c'est un moment où on a l'impression que tu prends vraiment ta place en tant que, ce qu'on va dire, protagoniste, c'est-à-dire que tu parles clairement à ta sœur, tu lui racontes toi ce que tu as vécu, et on commence à te découvrir dans ta vie de jeune femme à ce moment-là.
Du coup, ta grande sœur,
Nimi, Pinouane,
Pinouane,
Puinouane, Danti, Et puis moi, dans l'ordre des âges.
Et du coup, tu as 8 ans de différence.
Avec Danti.
Et beaucoup plus avec...
Avec Mimi. Oui, avec Mimi, on a 15 ans de différence.
Elle est belle, cette photo. T'es jolie dessus.
Ouais.
Je suis vraiment minuscule à côté. Ça me faisait vraiment une tête toute ronde. Non. T'as l'air petite aussi sur cette photo.
Oui. Bah, j'avais 10 ans.
Celle-là, elle est trop jolie. Maman lui mettait des petites robes à fleurs. Je suis une petite princesse. C'était pour mon anniversaire dans les parcs. Je sais plus comment il s'appelait. Tu sais que le grand frère, il s'appelle Aubin.
Ouais.
Et il est adopté où, Aubin ?
Au Vietnam aussi.
Et c'est par eux que papa et maman, ils ont entendu parler de l'adoption au Vietnam, non ?
Ouais, ouais, c'est ça.
Elle est trop bien, celle-là. Vous les connaissiez, les gens derrière ?
Oui, ils étaient là pour adopter, eux aussi.
Ouais.
Oh,
celle-là, elle est vraiment trop, trop bien. Je sais pas, je trouve ça mignon et en même temps, je trouve ça hyper déchirant. Parce que c'était l'orphelinat, ça ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous faisiez à cet orphelinat, alors ?
En gros, je crois qu'on était une dizaine de Français venu pour adapter 5 bébés au total.
Mmh.
Et toi, t'étais arrivé dans les dernières.
Et à chaque fois, vous accompagnez le groupe pour aller chercher l'enfant ?
Pas à chaque fois, mais ce jour-là, on a accompagné un couple pour aller chercher son enfant, ouais.
Ok.
Ouais. Et donc, on a visité l'orphelinat.
Tu t'en souviens bien, toi, de ça ?
Oui, ça m'avait un peu brassé.
Et comment ça s'est passé, du coup, quand je suis arrivée ?
C'est-à-dire ?
Je sais pas, tu t'en souviens peut-être pas. Ben, je suis descendue. J'étais avec la nourrice, là.
Le jour de ton arrivée ?
Ouais.
Quand t'es arrivée sur cette moto avec un bonnet orange ?
Ouais. Et genre, elle m'a juste donné et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de...
Non, je crois qu'il n'y a pas eu de discussion. Je sais plus bien.
Il n'y a pas eu une vérification. Enfin, je veux dire, vous saviez que c'était moi.
On avait eu des photos en amont et puis il y avait une intermédiaire. On avait des informations. Ouais, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Moi, je me souviens juste de ton arrivée en moto. Et avec un bonnet en laine alors qu'il faisait 35 degrés.
Oh, punaise.
Ouais.
Pourquoi j'avais ce bonnet ? Je crois que je l'ai toujours.
Peut-être que c'était une sorte de dot.
un héritage.
Un petit patrimoine. Ouais.
Un bonnet en laine.
Donc, comment as-tu pensé cette séquence, qui est un peu différente du reste du film ?
C'est une séquence qui m'a posé beaucoup de difficultés, et encore aujourd'hui, j'en suis pas très satisfaite, parce qu'elle m'a obligée à passer par le langage, ce qui n'est pas du tout mon vecteur préféré. Cette séquence avait pour vocation peut-être d'ouvrir au système de l'adoption internationale, au fait que je viens d'une famille, en tout cas avant d'en re-rencontrer une autre, je viens d'une famille dans laquelle on fait famille comme ça. Moi j'ai assisté à l'adoption de ma petite sœur qui est d'origine vietnamienne, et dans cette séquence on en parle, et c'est notre lien, c'est aussi ce qui, à travers les photos qu'on regarde ensemble, nos photos de famille, il y a d'autres enfants qui émergent, qui ont une même trajectoire que la nôtre. Voilà, la mise en scène de photos, c'était une façon de faire exister la temporalité du passé dans le présent. Et puis, j'avais besoin que ma sœur, parce qu'il y a des sœurs biologiques, tout au long de ce récit, j'avais besoin que, quelque part, ma première sœur, ma sœur française, fasse partie de cette histoire. Et avec elle, voilà, ça passe par la langue, parce que nous partageons une langue. Et il s'agissait de lui faire symboliquement la rencontre de tous les autres, ce qui pouvait ne se produire qu'à travers des photos.
D'accord. Et ça, tu l'as travaillé... tu m'avais dit que tu avais fait une résidence à la FEMIS pour travailler ta place en tant que personnage.
Alors, j'ai fait une formation qui s'appelle l'atelier documentaire, au cours de laquelle le projet a pu être développé parmi d'autres stagiaires et accompagné par des réalisateurs et des intervenants. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment creusé comment est-ce que ce film allait être construit. Et donc comment j'allais anticiper les tournages qui étaient postérieurs à la rencontre de ma famille biologique. Donc comment est-ce qu'au lieu de quelque part être dans... comme ce que faisait mon ami, filmer tel un témoin, comment j'allais construire, comment j'allais prendre de l'avance... décider de construire ma narration en le décidant par avance. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y avait trois régimes d'images. C'était les images filmées par mon père au moment de mon adoption, donc des archives familiales, personnelles. Les images filmées par mon ami lors de ce premier voyage où je rencontre ma famille biologique, où là je suis complètement personnage sidéré. Et puis il y avait les images que je filmais moi-même, parce que voilà, c'est la façon dont je regarde, même si j'avais pas de recul, dit quelque chose de comment je traverse cette histoire. Ce que j'avais observé, c'est que j'avais besoin de filmer en plan fixe, j'avais besoin d'enraciner quelque chose. J'avais besoin de cadrer, que ce soit à travers mon regard, que quelque chose de mon personnage soit dit. Maintenant, comme je réalisais mon tournage seul à partir de cette époque, donc à partir de 2019, en fait, il n'y a que en 2013, lors de la rencontre avec ma famille biologique, que j'ai été accompagnée à Sri Lanka.
Après, tu n'as plus jamais de cadreuse ou de cadreur avec toi?
Mais non, quand j'ai été avec ma famille, y compris dans des tournages que j'ai fait en France, parce qu'il y a eu l'hypothèse que je filme ma famille française aussi, j'ai souvent été seule, pas systématiquement en France, mais souvent, bref. Il fallait trouver un dispositif pour qu'on ne soit pas perdu quant à qui, quel est le regard. Je suis personnage, mais qui filme? Il y avait une confusion, il fallait trouver un dispositif. Donc, comme toi, Tom, j'ai eu recours à poser la caméra sur pied et la laisser tourner en entrant et en sortant du champ de l'action filmée pour qu'on sache que j'avais ces deux places, filmeuse et personnage. Et j'apparais donc j'apparais à différentes époques dans des archives familiales en tant que bébé ou en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte un peu plus tard, mais quelque part il fallait que je sois le personnage qui permet de se déplacer dans cette histoire entre les pays et les temporalités pour que le spectateur ne soit pas perdu.
Ouais. Et après ces images, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu les utilises pour recréer une connexion avec ta famille sri-lankaise.
Oui.
Ce que tu leur montres. Et du coup, là, toute la beauté de ce que tu filmes, la douceur de ton regard transparaît dans les images. Donc nous, on voit aussi après à travers... ça t'a permis d'avoir des séquences d'interaction.
Oui.
Ouais.
Mais ça, quelque part.
Tu y avais pensé tout de suite à leur montrer, ou elles avaient très envie de voir ce que tu filmais, parce qu'en fait, c'est assez beau quand elles disent t'es tout le temps en train de filmer, elle travaille, laisse-la travailler. Enfin, il y a quelque chose de beau aussi sur ce rôle de réalisatrice qui est complètement assumé dans ta famille sri-lankaise, en fait.
Ouais. Encore une fois, c'est pas une trouvaille de ma part, c'est en observant ce que je faisais pour pallier à l'absence de langage. De verbes avec ma famille sri-lankaise, ma famille biologique. C'est-à-dire que pour, par exemple, le jour où je les ai rencontrés, pour leur faire sentir l'histoire que j'avais vécue jusqu'à l'heure, 24 années sans eux, je leur ai montré des photos. Et je me suis aperçue qu'en fait, faire circuler des images, que ce soit des photos, des images fixes, des captures d'écran ou des images mobiles, c'est ce qui permettait de dépasser le fait qu'on ne parle pas la même langue. Il y avait quelque chose d'assez universel dans les images de famille. Ma famille a très vite vu que s'il y avait des images de moi à la mer, des images de moi à la montagne, ou sur un âne, ou au manège, c'est que j'avais eu une bonne enfance.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est devenu un langage. Et donc, naturellement, à force de vivre ces moments, c'est devenu un mode de narration dans le film.
Ouais. Et d'échange, ouais.
Oui.
Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Lassa de Cela, La Frontera, La Frontière.
Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Vous êtes dans l'émission On a déjà traité le sujet et on est toujours avec Maëlys Dartigues pour son film Srilandaise et Tom Fontenil pour Mémé Kim. Donc Maëlys, on revient sur ton film. Donc tu parlais des registres d'images. Et alors un registre d'image qui apporte, comme dans le film de Tom, une dimension politique sous-jacente, sont la façon dont tu as amené les archives, toutes les archives que tu avais, et notamment toutes les archives qui se passent au moment des adoptions, que ce soit la tienne ou celle de ta sœur. On a l'impression que tu t'en sers pour nous donner des clés de ton histoire. Et pour aussi partager un peu le regard que tu peux avoir sur l'adoption internationale, qui en fait n'est pas une histoire rose comme on essaye, comme des fois on peut le raconter. Mm-hmm. Tu peux nous dire à quel moment en fait tu as eu intégré cette notion dans ton film et comment ça s'est passé?
En tout, j'ai passé des années à essayer d'écrire ce film, de trouver la justesse, tout en éprouvant un sentiment de dissonance qui m'accompagne toujours. C'est ce qui m'emmène vers le cinéma, sensation de dissonance. Et là où elle existe, et j'ai essayé de faire sentir ça dans Srilandaise, c'est que j'ai été adoptée par une famille française qui faisait un acte d'amour à travers ça. Et je ne voudrais pas d'une autre histoire que celle-ci, puisque finalement elle est très heureuse. J'ai deux familles que j'aime, et je suis... Voilà, mes parents français, ma sœur française sont le début de mon histoire. Néanmoins, l'adoption internationale, c'est quelque chose qui m'a souvent été raconté comme une chance. J'avais rencontré la trajectoire extraordinaire de parents français qui faisaient un acte humanitaire en venant me chercher. C'est pas la réalité. Ils avaient envie d'avoir un enfant. Ils ont eu la possibilité d'en avoir un à travers l'adoption internationale. Mais ce récit qui tournait en boucle autour de moi maintenant, dans l'époque actuelle, il fallait que j'en fasse sentir la dissonance. Et à travers les mots, c'est compliqué. J'ai toujours trouvé que c'était compliqué parce que on était renvoyés, nous, les personnes adoptées à l'international, devenues adultes, à des personnes qui crachaient dans la soupe quand Bien elles sûr. Disaient que une image était manquante, par exemple. Enfin, il y aurait énormément de choses à dire, mais moi, il y avait un déracinement et une béance que je ne me formulais même pas, qui est devenue concrète quand j'ai senti le ventre de ma mère, quand je l'ai touché. C'est 24 années avec un déracinement qui ne trouve pas sa forme. Et là où il a pu trouver sa forme cinématographique, c'est que la juxtaposition de certaines archives familiales, par exemple avec des singes en cage, qui étaient les singes tels que je les avais connus jusqu'à l'âge de 24 ans, de mon premier séjour à Sri Lanka. Voilà, ces images contrastées avec les singes en liberté que je rencontrais à Sri Lanka, avec cette même sensation de retrouver une forme de liberté et d'incarnation. Je me suis amusée, en fait, au moment du montage, à revisiter mon histoire passée avec la perspective que m'ouvrait la rencontre de ma famille biologique et la découverte d'une nouvelle terre où, par exemple, on n'écrase pas les animaux sur les routes, on essaye de slalomer doucement entre eux. C'est un autre rapport au monde. J'ai rencontré une famille biologique à Sri Lanka, mais j'ai aussi rencontré une autre manière de vivre qui contrastait vraiment avec ce que j'avais vécu en France. Donc, au montage, a pu se construire cette dissonance. Le fait de donner à voir mes deux mères qui m'aiment toutes les deux et qui ont leurs mains sur moi, quatre mains sur un même bébé. Ça, on sait dans ce moment-là qu'il y en a une qui donne son enfant, qui ne le verra plus vraisemblablement, et il y en a une qui gagne l'enfant de temps rêvé, voilà, à travers une même image. Les archives et cette matière familiale, celle d'une famille qui a eu l'enfant tant rêvé, et puis dans un second temps, cette famille que j'ai retrouvée, qui est la famille qui a perdu l'enfant. Quelque part, les réunir dans une même histoire, c'est faire sentir cette dissonance de l'adoption internationale, cette ambivalence, et quelque part, ma nécessité de refuser, de dire « j'ai de la chance d'avoir cette histoire-là ».
Oui, tu montres les coulisses en fait, de l'adoption, c'est-à-dire les deux côtés, à la fois effectivement l'abandon d'un enfant pour une mère, qui le dit clairement, parce que ta mère, elle dit vraiment qu'elle t'attendait, ta mère biologique dit qu'elle a tous les jours pratiquement attendu ton retour quand même.
Oui, ce que je pense, on a très peu... en tout cas, à l'échelle sociétale, envisager les personnes qui donnaient un enfant en adoption, dans les cas où elles donnaient, parfois les enfants ont été volés. Mais on imaginait la trajectoire de la personne adoptée, sa trajectoire parmi les personnes qui l'avaient adoptée. On n'imaginait pas la troisième entité, qui était la famille biologique. Donc, il était fondamental pour moi de la donner à voir, étant donné que je l'avais rencontrée. Puis surtout, l'histoire ne me semblait pas juste, pas complète, si les trois entités n'étaient pas représentées dans une même histoire. Et voilà, dans mon enfance, je n'ai jamais entendu je me suis jamais figuré que ma mère biologique, si ça se trouve, pensait toujours à moi.
Évidemment,
on m'a jamais dit le contraire. Ouais. Mais
et il y a aussi ces images de vacances de tes parents en vacances sans toi, du coup, des images où on les voit monter à dos d'éléphant. Pourquoi les avoir mises ces images là?
Alors, c'est des images qui précèdent le moment de mon adoption. Mes parents sont venus me chercher à Sri Lanka. certains récupèrent leur bébé à l'aéroport. Donc, j'ai eu besoin de le montrer parce que du jour au lendemain, ce qui m'arrivait avec la rencontre de ma famille biologique, c'est que j'avais une famille riche et je me suis retrouvée avec une famille profondément désargentée. Et c'est comme si je n'avais plus jamais eu la même appartenance de classe. C'est-à-dire que quand il s'agissait de faire un Skype avec mes deux familles, il y avait ma famille française dans laquelle il pouvait être dit « Je pars en vacances en Italie dans le cadre de ma retraite, ça va être super. » Et de l'autre côté, c'était la réalité d'une famille qui ne savait pas ce que c'était les vacances. Et ces mêmes personnes sont devenues ma famille globale. Mmh. Presque un échiquier avec les noirs et les blancs d'un côté. Une fissure dans mon histoire, quelque chose qui ne peut pas être réuni. Presque les gagnants, si le monde était un champ de bataille, les gagnants et les perdants, presque. Ouais. Je prends des images fortes volontairement pour qu'on se représente ce que ça fait que dans une même famille, il puisse y avoir ces protagonistes-là. Donc, représenter mes parents dans ces moments qui ressemblent à des vacances, qui consomment presque, selon comment on le regarde, mon pays d'origine, qui montent sur un éléphant, qui sont dans un hôtel.
Et qui filment les femmes qui cueillent le thé.
Tout à fait. Ouais,
que ta propre famille fait.
Je voulais donner... Je finis par recueillir le thé. Je voulais montrer ça et le montrer comme ça parce qu'en même temps, le dire en silence, c'est aussi restituer le fait que mes parents, quand ils ont fait ça, mes parents français, c'était pas du tout dans une logique coloniale. Il y a quelque chose qui est très violent dans l'adoption internationale parce que les actes cumulés de personnes adoptantes, la densité des demandes a déstabilisé des pays qui pourvoyaient des enfants. Parce que quelque part, il fallait répondre à cette demande. Et néanmoins, moi, quand je regarde mes parents, je sais qu'ils y sont allés, non pas avec une envie de dominer et de coloniser. C'est toujours cette complexité-là, en fait. J'ai voulu donner à voir une partie de ce qu'ils donnaient à voir à travers le fait d'avoir de l'argent et d'aller dans ce pays pour récupérer un enfant de ce pays. Et à la fois, c'est aussi un couple qui, pour la première fois de sa vie, faisait un voyage ensemble, tout simplement.
Je voulais revenir un petit peu vers toi, Tom, concernant ta place aussi qu'on a commencé à évoquer, donc en disant que tu te mettais en scène. Il y a aussi des moments où tu utilises une voix off. Tu présentes un petit peu l'histoire de ta grand-mère en utilisant une voix off. Pourquoi avoir choisi d'utiliser les deux registres?
Déjà, de base, je ne voulais pas qu'il y ait trop de voix off. Et c'est pour ça qu'elle intervient juste à un seul moment. Et ça me semblait important, en fait, qu'elle intervienne à ce moment-là aussi pour montrer un peu mon malaise et aussi justement le flou dont on parlait tout à l'heure. Parce que c'est un moment où je dis peut-être que mes grands-parents se sont rencontrés en 46 dans le sud du Vietnam, ou peut-être en 48 dans le nord du Vietnam, peut-être ici ou peut-être ici. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de poser comme ça une base, parce que cette voix-off, elle intervient justement après le premier entretien avec Edith, où elle, justement, elle parle de cette gymnastique qu'elle a dû avoir justement pour reconstituer, on va dire, les puzzles de son histoire, parce que elle disait que des fois elle avait une ville comme ça, des fois une date, mais que c'était très dur en fait d'avoir quelque chose de cohérent, et l'objectif c'était vraiment de juste lâcher ça, on va dire, avec cette voix off.
Edith, tu peux nous rappeler juste
Edith,
ici.
C'est le premier entretien dans le film.
D'accord.
Qui est à la place de ma maman, quoi, qui est de la seconde génération, et qui a tenté, justement, comme elle le dit, d'ouvrir des portes avec sa mère, mais que ça n'a jamais non plus été vraiment possible, et que et qu'elle avait des espèces de morceaux comme ça de son histoire, un peu comme moi, et en fait cette voix, elle a juste un peu cette utilité là à ce moment là mais c'est assez court en fait, et on la retrouve pas vraiment après dans le film.
Et est-ce que le film, tu as pu le montrer à ton oncle, ta grand-mère, tes oncles et tantes, voilà, un petit peu?
Alors, étonnamment, ma grand-mère ne l'a pas vu parce que, voilà, c'est compliqué. Mais par contre, tous mes oncles et tantes l'ont vu lors de l'avant-première. Et ça a été un moment dur, en fait, voilà, pour eux. Il y a eu des très fortes émotions. Et mon oncle, justement, il s'est mis à chialer dans mes bras et il m'a dit cette phrase qui me reste toujours en tête, il m'a dit « t'as réussi », mais juste ça, « t'as réussi ». Alors, pour moi, ça veut dire un peu « t'as réussi à, un peu à réveiller justement ce truc-là, je crois, de, on parlait de déni tout à l'heure, ou de ça, parce que vraiment, il était très, très ému et j'ai senti que ça l'avait touché à un endroit où en fait, on touche rarement. Justement, quand je parlais des non-dits tout à l'heure, je pense que ça a posé des mots sur une histoire. Et effectivement, ça a été un moment... en vrai, ils ont tous et toutes chialé tout le long. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que par contre, ça a été très bien accueilli. Mais c'est toujours comme ça, en fait, dans ma famille. C'est quand on veut faire les choses et quand on veut parler des choses, on n'y arrive pas. Mais une fois qu'on le fait et qu'elles sont vues, on est content et contente.
Tout le monde est content.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est un peu... Voilà, c'est le schéma de ce qui se passe vraiment dans ma famille. Quoi. Mm-hmm.
Et toi, Maëlys, comment le film a été reçu dans ta famille?
Le film a été très bien reçu de part et d'autre. Mm. Il a contribué à être en lui-même un langage qui permettait aux deux familles de mieux se comprendre. Mm. Et ce qui m'a particulièrement émue, d'ailleurs, c'est la réaction qui a été silencieuse de ma mère biologique et d'une voisine sri-lankaise qui ont vu le film ensemble. Elles n'ont absolument rien dit, mais elles n'ont pas quitté l'écran du regard. Comme si tout d'un coup se révélait ce que j'avais bien pu faire pendant 8 ans.
Ce grand mystère.
Oui.
La création des films.
Oui.
Moi, j'avais une question aussi par rapport à ta maman. En fait, tu lui poses jamais de questions. Je pense que c'est ce que tu nous as déjà expliqué, que tu voulais pas passer par le langage. C'est un petit peu ça. Tu l'interroges pas. Il y a ta sœur qui te parle un petit peu des raisons de qui te parle un peu de ta mère, mais ta mère, jamais vous parlez de ça en fait, de ce moment de l'adoption, etc.
Alors, il y a deux choses. C'est que moi, je trouve que le langage, c'est pas assez. En tout cas, par rapport à ce qu'il y aurait à donner à voir, à rendre sensible de cette histoire-là. Sinon, j'aime bien le langage, mais voilà, pour raconter cette histoire interculturelle, je trouve que ce n'est pas suffisant. Maintenant, j'ai essayé de savoir des choses sur mon histoire, mais je me suis heurtée à des réactions qui ressemblent à certaines que tu as vécues, Tom. C'est que, quelque part... Il y a quelque chose de l'ordre du jardin secret dont tout le monde s'accommode du fait que ce soit lointain, que ce soit tu, et c'est pas qu'on fait, comment dire, c'est un secret de Polichinelle, ce qui entoure mon histoire d'adoption. Et puis je ne suis pas bien sûre de ce qui a été dit au sujet de mon adoption. C'est un sujet qui est devenu très tabou à Sri Lanka. Le fait d'avoir donné un enfant en adoption, c'était un petit peu le fait de l'avoir trahi, de l'avoir bradé. Il y a un petit peu cette idée désormais. Et je crois même qu'il ne faut pas trop dire qu'on a donné un enfant en adoption ou même qu'on a un enfant occidental, par ailleurs. Ça peut représenter un danger pour une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il y a un flou et on vit avec. Mais, comment dire, ça me suffit. Je m'en accommode, j'accepte en fait de ne pas avoir toutes les réponses. J'ai un présent avec toutes ces personnes et je partage une réalité avec des neveux et des nièces. C'est inespéré. Le passé peut rester là où il est.
Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut voir vos films? Comment les voir? Tom, vas-y, commence si tu veux.
Moi, c'est plutôt difficile de le voir maintenant, même Mimikim. Mais par contre, voilà, vous pouvez facilement me contacter
via ad hoc. Il suffit d'écrire
ad hoc ou soit sur Instagram, c'est Tom Lafonte. Et voilà, je peux vous envoyer des liens avec plaisir.
Et je précise que ton film Cœur secret, dont j'ai dit qu'il sortait cette année, il sortira a priori l'année prochaine, tu disais.
Soit en fin d'année ou soit en début d'année prochaine. Ouais.
Mais déjà, on peut le voir dans pas mal de festivals, par exemple l'USAS et d'autres. Et d'autres, ça, voilà, ça tourne un peu cet été.
Oui.
Ouais. Maïlys ?
Moi, je suppose que en me contactant, on peut soit s'organiser une projection, soit éventuellement transmettre un lien à vérifier avec ma productrice.
Oui, on va organiser une projection aussi.
C'est, ouais, c'est bien, une bonne idée, ça.
Peut-être qu'on peut l'organiser ensemble.
Ouais, oui, ça serait bien. Ça serait bien.
Ouais. Eh ben, on va laisser la place à Marcia pour l'agenda.
C'est donc l'heure de l'agenda documentaire de l'été, le fameux agenda ad hoc. Donc il va faire chaud et quoi de mieux que de se réfugier dans des salles au frais ou sous des arbres, voilà, pendant l'été. Donc voici notre sélection et bien entendu qui dit été dit festival. Alors on commence par un festival qui se clôt ce soir à Paris, hein, le festival Les Yeux Ouverts dans le 19e arrondissement. Vous pouvez encore y assister ce soir et cette fin d'après-midi, donc pour voir des pépites de courts-métrages. Et aussi une masterclass à 17h sur le son. L'adresse est au DOC, au 26 rue du Docteur Potin à Paris, 19e. Et on enchaîne en proche banlieue le week-end prochain avec un petit nouveau, le festival Autre Vue, les 11 et 12 juillet à Saint-Denis. Cela se tiendra sur le parvis de la Basilique. C'est un festival du cinéma pluriel et gratuit qui met en avant le territoire de la Seine-Saint-Denis avec des projections de documentaires en présence des auteurs et des ateliers, notamment un sur la co-création. On poursuit à Foix, cette fois-ci, dans l'Ariège, avec le festival Résistance, qui a commencé le 3 et qui va se poursuivre jusqu'au 3 juillet, jusqu'au 11 juillet, pardon. Donc, des films, des débats, des apéro-concerts et avec des thématiques très diversifiées, hein, comme Capital Santé, Chantier collectif contre l'extrême droite, extractivisme, du saccage à la lutte et un zoom sur l'Inde. Voilà, pour un petit regard ailleurs. Donc, toutes les précisions sont sur leur site http://festival-resistance.fr. Et on n'oublie pas, bien sûr, en août, les fameux festivals du film documentaire de l'USAS, hein, du 16 au 22 août. Et à partir du 20 juillet, donc notez cette date, il y a l'ouverture de la billetterie pour les cartes semaines, les cartes des trois jours et les réservations prioritaires. Et aussi, ne pas oublier, le festival de Douarnenez qui se tient du 15 au 22 août 2026 avec comme thème cette année les Maroc au pluriel. Donc là aussi, vous pouvez tout savoir sur leur site web festivaldouarnenez.com. Donc il va falloir faire des choix. C'est en revanche ta pause estivale pour les samedis d'ad hoc et les projections du samedi matin au cinéma Luminor, mais vous pouvez retrouver toutes les discussions qui se sont tenues cette année sur notre site SoundCloud, les samedis d'ad hoc. Et les films des Adociens continuent leur vie magnifique sur les plateformes de diffusion et voyagent aussi à l'étranger. Alors, pour ceux qui ont la chance de résider au Brésil ou de voyager au Brésil, sera projeté à Rio de Janeiro, s'il vous plaît, le vendredi 9 juillet à 18h, Les Recommencements de Isabelle Ingold et Viviane Perrémulter dans le cadre du festival ECRA. Et au Centre culturel Banco do Brasil. Et aussi le magnifique documentaire « Ce qui reste des amours de nos mères » de Cathy Dubois, lui partira en escapade en Grèce, hein, le 29 août à Castello Rizzo pour le festival Beyond Borders. Et les autres films des Adociens à voir sur les plateformes. Donc, vous avez encore jusqu'au 23 juillet pour visionner le film de Gabriel Fabre sur Arte, « Nastassia Kinski, une vie à soi ». Sur Tank, vous allez pouvoir regarder Nos vies adultes d'Alexandre Hiller. Ce qui reste des amours de nos mères de Cathy Dubois sera diffusé sur France 3 Bretagne le 26 août à 22h50 et sera en replay sur France TV jusqu'au 16 avril 2027. Voilà. Et puis, je vais terminer par un petit appel à film, hein, qui peut intéresser les cinéastes. Pour la 30e édition du festival Les Écrans Documentaires, donc les inscriptions sont ouvertes et se clôtureront le 10 juillet. Donc, l'appel concerne les premiers et deuxièmes films et les inscriptions se font uniquement sur le site Doc Film Dépôt. Autre appel à films et projets, si vous avez réalisé un film lié à un quartier de l'Est parisien, le festival Ciné Belleville 2026 se tiendra début octobre et les inscriptions et films sont ouverts jusqu'au 7 septembre 2026. Et pour finir, l'appel à projet de la 11e édition du WIP Festival, hein, qui se déroule du 24 au 26 février 2027 à Bobigny et qui est dédié aux œuvres en cours de développement. Donc, et notamment Adoc qui lance un appel aux cinéastes qui ont été accompagnés par Adoc. Et date limite de candidature, c'est le 14 septembre 2026. Voilà, c'est terminé pour cet agenda. Je vous souhaite un très bel été 2026.
Merci à nos invités. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. À bientôt.
À bientôt.
Merci. À bientôt.
Le balayeur de l'espoir. Je console, je rafistole, je nettoie les vieilles casseroles, les amours endormis, les rêves à l'agonie. Avec mes maladresses, moi je piétine la tristesse. Je ramasse les étoiles qui se sont fait la malle. Je suis pas in, je suis pas clean, faudrait que je passe au pressing. Je suis vieillot, je suis rétro, je suis celui qui a pas de peau. Mais j'ai dans ma mémoire, au fond de ma caboche, un tourbillon d'histoire à faire sourire vos mioches.
Non, ça va pas changer le monde. Non, ça va pas faire taire les bombes. Mais sur le bateau de ton chagrin, mon ami, donne-moi la main.
Je suis le balayeur d'un soir, le balayeur de l'espoir. Je poursuis sous mon tapis les petits débris de la vie, les souvenirs qu'on endure, les idées qui torturent. Toi devant mes pirouettes, un instant tu t'arrêtes. Tu regardes la grande ours, puis tu reprends ta course. Je fais chanter le merle, je viens t'offrir des perles. Moi le vieil homme idiot, j'en fais toujours de trop. Mais au cœur des ténèbres, je fais fuir les fantômes et leur convoi funèbre dans le creux de ma paume. Non, ça va pas changer le monde. Non, ça va pas faire taire les bombes. Mais sur le bateau de ton chagrin, mon ami, donne-moi la main. Mais sur le bateau de ton chagrin, mon ami, donne-moi la main.
Du bon goût, tenez-vous droit au garde à vous. Le petit doigt en communion sur la culture du pantalon. Je prie, prends sa terre à genoux, d'être étiqueté comme un bon coup. Tout le monde chante à l'unisson, les uns rock libération. Pour un peu de reconnaissance, je vendrai mon cul à votre science. Être à jamais votre singe. diversité en ma culture, que ta peau reste brute. Quand tu te fringues en couture, tu ressembles à une pute.
Qui veut croquer dans la pomme, dans les usines à regardise, où la culture se consomme comme une petite friandise. Enseignez-moi votre doctrine, pardonnez mon ignorance. Quand vous prêchez, je m'incline devant votre art de la tendance. Dysfonction, lobotomie, pilonner la même chanson, doubler la posologie, libre arbitre pour l'infection, rémunéré à la picole, pour l'amour du rock'n'roll. L'indépendance, mon seul honneur, c'est lever tout droit mon majeur.
L'université, si fragile, éclatante.
De vos mains, la pluie, le beau temps, le vide permanent.